Donc, on attaque les versets 7 à 21 de ce 15e et long chapitre, qui n'est toujours pas fini d'ailleurs. On en fera un petit rallonge après. Je pense que vous avez eu le temps de méditer sur les nombreuses questions. Donc là, j'avais fait beaucoup plus court que d'habitude.
Excusez-moi, quel chapitre ?
15e.
7 à 21.
À partir du verset 7. Et peut-être avant qu'on fasse la lecture, juste dire donc qu'on est dans cette péricope confronté à une sorte de débat organisé à Jérusalem. Alors, la plupart de nos Bibles portent le titre Concile, etc. Je trouve que ça fait un peu pompeux et c'est un peu tôt pour parler de Concile dans l'histoire de l'Église. Donc, je préfère le débat, quoi, débat sur un vrai problème, dont on parlera dans un moment. Il y a donc un désaccord, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière, sur la demande que font certains judaïsants de circoncire ou d'obliger, en tout cas, les païens à être circoncis pour appartenir réellement à la communauté du peuple de Dieu. Parce que c'est ça l'enjeu. Et donc, Antioche envoie une délégation à Jérusalem pour avoir le fin mot de l'histoire. Et bien sûr, Jérusalem, c'est-à-dire à la fois le collège des apôtres et l'Église, qui est quand même l'Église mère de toutes les Églises, si vous voulez, organise ensemble une sorte de grand débat auxquels assistent d'ailleurs la plupart des gens de la communauté de Jérusalem, ou des communautés de Jérusalem. Même s'ils n'ont pas nécessairement droit au chapitre, mais ils sont là, ils peuvent entendre les débats. Toute la question que pose la péricope, c'est comment ces instances, le collège des apôtres et les anciens de Jérusalem, vont-ils pouvoir gérer cette épineuse question qui pourrait mettre en péril, c'est ce que j'avais dit la fois passée, l'unité même des Églises, ou de l'Église avec un grand E, de l'Église qu'on pourrait qualifier d'universelle. Et en même temps, péril pour l'unité, péril pour la communion, ou la qualité de la communion, entre juifs d'un côté messianique et païens convertis, qui pour l'instant côtoient les mêmes espaces, sauf à Jérusalem, on en reparlera tout à l'heure, et c'est donc ce qu'on va découvrir dans cette péricope, dont on peut faire la lecture maintenant. Je préconise qu'on fasse tout le texte, donc de 7 à 21, sans s'arrêter pour avoir une vue d'ensemble. Alors, est-ce que quelqu'un, ou même deux personnes, on n'est pas obligé de faire la lecture tout seul.
Je commence. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit : Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Donc Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit : Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir d'au milieu d'elle un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit : Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Je vais finir, il n'y en a plus que trois.
Vas-y.
C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues.
Très, très bien. Alors, en fonction de la première question du questionnaire, ben, comment se déroule ce début de débat, donc au verset 7, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Ben, Pierre intervient.
C'est calme, comme il y a pas. C'est assez calme, il n'y a pas de. Non,
bien,
pour le moment.
Bien. Avant que Pierre n'intervienne.
Une grande discussion.
Ah oui, la grande discussion. Oui.
Alors, certains textes, certaines traductions parlent d'un côté un petit peu conflictuel. Hein, c'est un peu. Mais ce qui est assez naturel dans le milieu juif, hein, on ne peut pas débattre sans. S'énerver un petit peu, voilà. Oui. Ça fait partie du jeu, de toute façon.
Je dois avoir des descendants juifs.
Ceci dit, en grec, il n'est pas question, il n'y a pas un caractère négatif à la discussion. Donc en grec, on a plutôt l'idée d'un long débat, un grand débat, dit le texte en grec, littéralement. Ce qui laisse entendre qu'avant que Pierre prenne la parole, un certain nombre d'acteurs sont intervenus. On ne sait pas lesquels, mais on le devinera. On en reparlera vers la fin de l'étude, vraisemblablement. Donc, il se déroule déjà depuis un moment un débat assez long avec des intervenants. Et c'est quand ce débat-là est arrivé à son terme que Pierre va enfin prendre le crachoir. Alors, je pense que j'avais demandé... De repérer qui prenait la parole après ce débat, donc un peu soutenu, un peu long.
Est-ce qu'on peut dire qu'il est houleux?
Alors le débat est tendu, je pense, ouais. Que ça on peut le dire, parce que la question est très délicate.
Ouais.
On y reviendra encore dans un moment aussi, les raisons.
Parce que c'est quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru. Mais c'est eux qui disent qu'il faut circoncire,
oui.
Et exiger l'observance de la loi. Ils doivent certainement être, pour moi, ils doivent être convaincus de leur position et ils veulent l'imposer.
Oui. Donc, comme ils ont déjà tenté de l'imposer dans les terres païennes.
Oui.
Avec peut-être plus d'efficacité qu'à Jérusalem, d'ailleurs. Alors, mais c'est clair que, on vous rappelait, c'est dans le début des Actes, on avait vu qu'il y avait quand même deux grands courants à Jérusalem. Le courant des hébraïsants, donc des judaïsants, très attachés évidemment aux règles, à la loi, comme tout bon juif en fait, hein, etc. Et puis le courant des hellénistes, plus ouvert, puisqu'issus de la diaspora, ayant l'habitude de fréquenter les païens, etc., et étant moins carré que le clan des judaïsants, dont les pharisiens sont le fer de lance. Hein, c'est quand même eux qui mènent la danse finalement.
Tendu est probablement un meilleur mot, celui que tu
oui.
as donné.
Je pense que le débat, et on y reviendra tout à l'heure, le débat n'apparaît pas comme violent. Il n'y a pas de violence verbale, il n'y a pas d'outrage, il n'y a pas... Mais par contre, c'est un débat tendu parce qu'il y va des règles même du judaïsme. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tolérer dans les églises que païens et juifs se côtoient alors que les païens ne seraient pas assujettis aux mêmes règles? C'est ça qui se pose comme question. Notamment une parmi toutes, celle de la pureté. Donc vous rappelez que les juifs sont soumis à toute une série de rites, de purification, régulière pour le moindre problème, y compris dermatologique, eh ben, on file offrir un sacrifice, bon, on doit se prendre des bains rituels pour être purifié, et après X jours, on peut réintégrer l'espace cultuel, donc le temple, etc. Donc on se rend bien compte que là-dedans, faire intervenir des païens qui ne sont pas soumis à ces règles va poser un vrai problème à toutes les communautés judéo-chrétiennes, c'est-à-dire mixtes. Mais on y reviendra aussi dans un moment. Et donc je pense que tu as raison, il faut concevoir que le débat n'est pas simple, il est épineux, il est tendu, parce que personne ne veut vraiment lâcher. C'est-à-dire, les judaïsants pensent qu'ils ont raison de demander la circoncision. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est quand même important. Demander la circoncision, c'est donc demander l'assujettissement à la loi. Ce n'est pas juste la circoncision. Circoncis, ça veut dire être comme un juif. Ça veut dire observer tout ce qu'il y a à observer. Et donc, doit-on demander à des païens non concernés par ces rites d'adopter ces rites juste pour faire plaisir aux juifs qui, eux, disent « il y a quand même de l'impureté dans l'air, on ne peut pas s'associer comme ça avec les païens ». Alors on verra que ça ne va pas être facile à gérer. Hein. Donc, je reviens dans mon questionnement. Quels sont les intervenants et pourquoi ?
D'abord Pierre.
Alors, on a d'abord Pierre.
Et puis Barnabas et Paul.
D'accord, le tandem.
Et puis Jacques.
Et à votre avis, pour quelles raisons ?
Moi, je me suis dit que Pierre, c'est peut-être celui qui a été le premier concerné à propos de Corneille, l'expérience qu'il en avait faite là dans Acte 10. Mm-hmm. Puisque Dieu, par le son, lui avait dit de ne pas regarder comme impure les nations païennes.
Exactement.
Donc, quelque part, c'est peut-être à lui de convaincre les siens, là-bas, d'Israël.
Donc, c'est clair qu'on n'aurait pas été à Jérusalem si le débat avait eu lieu ailleurs. Peut-être que Pierre ne serait pas intervenu.
Ah oui, voilà.
Mais ça se passe à Jérusalem, justement, dont il est, enfin, que ce soit l'église de Jérusalem ou le collège des apôtres, il en est le fondement. C'est sur lui que tout a reposé au début. Quand il parle dans le texte un petit peu plus loin, il parle des débuts. Il parle de quel début ? Mais des débuts de l'Église. Il dit « dès le début, Dieu a », etc. Et effectivement, on avait vu que l'affaire Corneille, elle intervient très tôt dans le développement dynamique de l'Évangile en Palestine. Donc ce n'est pas juste un truc qui est arrivé 30 ans plus tard. C'est arrivé dans les quelques mois qui ont suivi l'implantation de l'Église de Jérusalem. Et donc, il y a il y a donc une raison fondamentale pour laquelle le premier qui va prendre la parole après le débat ou la présentation des arguments, on pourrait dire que ce qui a précédé, c'est tous ceux qui avaient quelque chose à dire en faveur de la circoncision ont eu le temps de développer leurs idées et de demander d'être plus précis, de demander exactement ce qu'il voulait. Et donc Pierre va être le premier intervenant pour ces raisons-là, en tant que chef des apôtres, fondement ou fondateur de l'Église de Jérusalem, même s'il n'en est plus aujourd'hui le chef, puisqu'on voit que le chef, c'est qui finalement ?
C'est Jacques.
Celui qui va intervenir en dernier. Alors ça, c'est une première raison. Le deuxième intervenant, c'est le tandem. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé, là ?
L'autre, peut-être.
Oui.
Mais non.
Ah, de Barnabas.
Exactement.
Parce que Barnabas fait partie de la communauté.
Oui, exactement. Donc, Barnabas est celui qui est évidemment le plus connu, qui a été, rappelez-vous, mandaté par Jérusalem à Antioche. C'est un chypriote d'origine, donc il a aussi l'habitude des païens, entre guillemets. Et puis, il a une certaine autorité à Jérusalem. C'est pas n'importe qui. Puisque c'est lui qui avait été envoyé pour développer l'église d'Antioche de Syrie, donc en terre païenne, avec un apport considérable. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que le tandem, jusque-là on avait eu Paul et Barnabas, là maintenant on revient à Jérusalem, donc c'est Barnabas et Paul, et on suppose, puisqu'il y a tandem, qu'ils ont tous les deux pris la parole. On y reviendra sur le contenu dans quelques minutes. Et puis le dernier intervenant, Jacques. Évidemment, j'ai presque envie de dire, c'est Jacques, et ça ne pouvait être que lui. Donc, et la raison, c'est quoi ? Bon, il est apôtre, on est d'accord, mais il est surtout chef
de l'église
de Jérusalem, exactement. Ouais. Et à ce titre, on lui demande quoi alors ?
De trancher.
Oui, de trancher.
Oui, voilà,
c'est-à-dire, après avoir entendu les arguments pour la circoncision, les arguments plutôt défavorables à la circoncision, il faut que quelqu'un
tranche.
Dise ce qu'on fait. Et je pense qu'il faut bien concevoir que dans la prise de parole de Jacques, il y a une parole synthétique. C'est-à-dire, Jacques a écouté toutes les parties et il va essayer de trouver le compromis qui puisse faire en sorte que l'Église reste en paix, l'Église reste unie, et que les églises de la diaspora, donc les églises mixtes, judéo-chrétiennes, ne fassent pas d'ombre à Jérusalem, et vice-versa, que Jérusalem n'impose pas des règles qui sont hyper strictes parce qu'elles concernent le peuple juif en lui-même. D'accord ? Donc voilà, un petit peu l'ordre des choses. Alors maintenant, on peut essayer de détailler un petit peu. Alors, on ne va peut-être pas faire du mot à mot, parce qu'il y a énormément à dire sur chacune des prises de parole. Mais dans l'intervention de Pierre, versets 7 à 11, plus ou moins, comme je l'ai dit, il intervient en premier. Il a quand même été le premier, comme tu l'as dit, Marie-France, à être mouillé avec les païens. Et d'après vous, il y a combien de temps, l'affaire Corneille ?
Ouh !
Parce que une série d'arguments de Pierre ici, oui, des années, et donc la plupart des commentateurs s'accordent à dire une dizaine d'années. Donc l'affaire Corneille remonte à plusieurs années. Or, qu'est-ce qui s'est passé, si vous vous souvenez des chapitres 10 et 11 et voire 13, ce qu'on a découvert, c'est que les païens, alors qui étaient déjà des craignants Dieu, hein, ces païens-là n'ont pas été soumis à des règles liées à pur, impur, circoncision, pas circoncision. Donc, on s'aperçoit que dès l'origine de l'ouverture aux païens, avec Pierre, il n'y a pas eu l'ombre d'une... Ah oui, bien sûr, on a râlé à Jérusalem, on trouvait ça inadéquat, on a vu tout ça, hein, on a étudié ces textes-là. Mais, néanmoins, Jérusalem n'a pas fixé de règles, n'a pas obligé les craignants Dieu ou les nouveaux convertis d'origine païenne à embrasser la loi, la circoncision, etc. etc. Donc Pierre va se servir de cela dans son discours, on va le voir dans une seconde. Alors il faut aussi noter, mais ça c'est évidemment pas dans le texte, hein, mais il faut bien noter que c'est la dernière fois que Pierre va nous apparaître dans les Actes. Donc cette dernière prise de parole très officielle, elle doit être soulignée. Parce que c'est peut-être la dernière fois que Pierre va influer sur la politique de l'Église de Jérusalem grâce à son histoire, grâce à ses antécédents. Et donc ça vaut la peine d'être souligné quand même. Alors je vais être très, très simple et très synthétique. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre, dans ce discours ? Est-ce qu'il défend la circoncision ? Est-ce qu'il s'attaque à la circoncision ?
Non, il parle que le Saint-Esprit les a acceptés de la même manière qu'eux.
Donc, qu'est-ce que fait Pierre ? Il développe les faits, et rien que les faits. Les faits, c'est que c'est Dieu qui est à l'origine de l'ouverture aux païens, c'est Dieu qui l'a refilé le Saint-Esprit, c'est quand même pas Pierre, c'est Dieu qui les fait entrer dans le salut, c'est-à-dire dans le même peuple que le peuple d'Israël. Et donc, il va se contenter de ça en deux, trois points. D'abord en disant, c'est Dieu qui connaissait les cœurs des hommes, qu'ils soient juifs ou païens. Et c'est lui qui a décidé, dans les versets, on trouve ça d'ailleurs déjà dans les chapitres précédents, hein, 10, 44, 11, 15, etc. Mais ici, au huitième verset, on découvre que Dieu a donné aux païens, comme aux juifs, le Saint-Esprit. Et vous vous rappelez qu'à une époque, quand on avait étudié ces textes-là avec Corneille, on avait vu qu'on pouvait parler d'une première Pentecôte et d'une deuxième Pentecôte, une Pentecôte pour les païens qui met finalement tout le monde à égalité. Et donc, Pierre, se souvenant de cette vieille affaire d'il y a 10 ans, leur dit, mais écoutez, à l'époque, on n'en a pas déjà parlé, et on était tous bien d'accord que c'était bien le même Seigneur, le même salut, le même baptême dans l'Esprit Saint. Donc, où est le problème ? Hein, c'est un peu ça, finalement, qu'il soulève. Et puis, surtout, il insiste à la fin, donc 15, verset 11, il insiste sur le salut qui a été offert par la foi. Donc, c'est pas ce qu'il dit, c'est non pas par la loi, mais par la foi en Jésus. Donc, c'est ça qui les réunit. Qu'on soit juif messianique par la foi en Jésus, ou que l'on soit païen, incirconcis et converti, c'est par la foi à Jésus qu'on entre dans la même communauté ou le même peuple, le peuple de Dieu, tout simplement. Alors, je vais quand même relire un coup, parce que ça vaut la peine. Il dit que c'est donc bien, donc verset 7, c'est par un choix de Dieu que dès les premiers jours, et chez vous, sous-entendu les Juifs, les judaïsants, les nations païennes ont entendu de ma bouche la parole de l'Évangile et sont devenues croyantes. Donc ce qui se joue, ce n'est donc pas l'observance de règles, mais la foi qui sauve. Donc la croyance en Jésus le Messie, qui est le Messie d'Israël, bien entendu, mais qui devient, par la même occasion, le Messie des païens. Donc ça, il essaye de démontrer cela. Alors indirectement, quand tu parles des faits, si je suis l'apôtre Pierre et que je développe ce qui s'est réellement passé à l'époque et l'ouverture aux païens et la non-réaction négative de Jérusalem. Oui, il y a eu des critiques, des reproches, etc. Mais ils ont géré tout ça et ils sont bien tombés d'accord à l'époque qu'on n'imposerait rien aux païens en Palestine, c'est-à-dire sur le territoire d'Israël. On ne va pas leur imposer plus que nécessaire. Mais du coup, on n'a pas défini ce qui était imposable. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'avait pas négocié cela, parce qu'on pensait que c'était, à l'époque, sans doute, mineur. C'est pas ces trois païens convertis qui vont fausser l'avenir du judaïsme. Mais maintenant, c'est pas le cas. Parce qu'il y a deux pingouins qui ont été faire le tour du monde et qui ont installé des églises à Chypre, à Antioche de Syrie, en Cilicie, en Galatie, en Pamphylie. Bon, finalement, on est débordés.
Ils vont être minoritaires.
Ah ben oui. Donc, il ne reste que l'église mère qui est quasi purement juive. Tout le reste, c'est une mixité. Et donc, la question, et c'est pour ça que je parle de question légitime tout à l'heure et épineuse, va-t-on vivre ça bien ? Le fait que le judaïsme, ou en tout cas, même la foi messianique est en danger à cause de cette problématique du monde païen qui envahit l'Église, qui répond à l'appel de Dieu, etc. Ça, ils en sont tous bien conscients. Ils n'ont pas de problème avec ça. Mais ce qu'on n'a pas réglé avec l'affaire Corneille, on exige maintenant de le régler. C'est-à-dire notamment tous les rites liés à la relation interpersonnelle. Est-ce qu'on peut se côtoyer ? Est-ce qu'on peut manger ensemble ? Est-ce que si les païens mangent des viandes vendues aux idoles, j'y reviendrai dans un moment, ça ne va pas foutre le brin dans la communauté juive ? Tout ça pose quand même de sérieuses questions. Alors, bien sûr, Pierre, en argumentant sur les faits et en ne se focalisant pas sur la circoncision, montre que Dieu a voulu la liberté des païens. Dieu n'a pas voulu d'un joug sur les païens. Grâce à la foi en Jésus, évidemment. Hein. Donc, il ne leur a pas imposé l'observance de la loi. Pourquoi ? Parce que la loi est juive. La loi est pour les juifs. Mm-hmm. Nulle part, il est écrit dans la Torah, que la loi est pour le commun des mortels. C'est lié à l'Alliance. C'est lié à la judaïté. Donc, effectivement, si la question aujourd'hui se pose de la relation ou de la communion, on va devoir gérer cette question. Est-ce que finalement la loi a encore une valeur, autant pour les juifs messianiques que pour les païens, etc. Et donc Paul va à un moment donné, verset 10, première partie du verset, soulever une vraie question. C'est-à-dire, il leur dit, si on va au bout de votre raisonnement...
T'as dit Paul ?
Pierre. Si on va au bout du raisonnement, le raisonnement que vous avez, qu'il faut circoncire, donc sous-entendu observer la loi, eh bien, nous risquons de tomber dans une provocation. C'est provoquer la volonté même de Dieu. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est dire à 10 ans plus tard à Dieu, tu t'es trompé. Dans quoi tu nous as foutus ? Hein, avec ton ouverture aux païens, maintenant on fait comment ? Maintenant on est débordé par les païens. Alors comment on doit faire ? Et donc, Pierre, un petit peu sans doute ironiquement, leur dit, mais pourquoi provoquer Dieu ? En imposant le joug que ni nos pères, ni nous-mêmes, n'avons été capables de porter.
Ça, j'ai pas saisi. Puisque eux, quand même, se sont pliés à la loi.
Alors, ils essayent.
Ils
tentent.
Ah, ouais.
C'est bien là que Pierre est perspicace. Il leur dit, écoutez, si on était de fins observateurs de la loi...
Il n'y aurait pas besoin de Jésus, en fait.
Alors, on n'aurait pas besoin de Jésus, on n'aurait pas besoin de sacrifices non plus. Pourquoi offrir des sacrifices de purification si on fait les choses bien? Donc la loi n'arrête pas de nous condamner. Et c'est ce que Paul développera dans des épîtres comme les Romains, etc. Le nombre de mots Galates, le nombre de fois où il exprime ça dans ses discours. Il leur dit, mais désolé les amis, la loi, elle est là pour nous convaincre qu'on n'était pas OK. Même en tant que peuple élu, on n'est pas OK. Donc maintenant, est-ce qu'on va imposer aux païens la même dure loi que nous n'arrivons pas, nous, à vivre ? Sous-entendu, est-ce que nous ne pouvons pas accepter que les païens ne soient pas soumis à la loi ? Parce qu'ils ne sont pas juifs. Et qu'ils n'ont pas envie de l'être. Certains le sont devenus. Hein, ceux qui vont jusqu'au bout de la conversion au judaïsme, avec la circoncision à la clé, quel que soit l'âge, ils ont été jusqu'au bout. Et ça, c'est un choix personnel. Mais maintenant, si Dieu a appelé les païens à faire partie du même peuple que nous, est-ce que nous devons leur demander, nous, pas Dieu, nous, exiger qu'ils soient circoncis et qu'ils observent la loi ? Et c'est là tout le débat. Et donc Pierre va être très, très, à la fois ironique et dur en disant, en utilisant le verbe provoquer. En fait, si nous allons au-delà de ce que Dieu a voulu, nous le provoquons. Nous lui disons qu'il a mal fait son job avec les païens. Et du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait subordonner le salut des païens à la circoncision. C'est-à-dire que leur salut dépendrait plus de la circoncision que l'acte de foi en Jésus, le Messie. Alors il dit non. Nous qu'on cumule les deux en tant que juifs, OK, on était observateurs de la loi et on reconnaît notre Messie. Mais vous ne pouvez pas demander aux païens le même parcours, le même chemin. Ça n'a pas de sens.
Est-ce que Jésus n'a pas déjà lancé un peu une perche? Parce que quand on parle, il parle de la circoncision de la chair.
Voilà.
Mais lui, il préfère, je crois que c'est la circoncision
du cœur.
Voilà. Donc déjà, il a lancé.
C'est déjà dans cette flèche.
Bien sûr. Mais déjà dans les prophètes, on trouve ce genre d'argument. D'ailleurs, le nombre de prophètes qui disent, vous savez, au sacrifice. Dieu, il s'en fout.
Oui, tout est à lui.
C'est ça. Par moment, il leur dit, écoutez, arrêtez avec vos sacrifices. Là. C'est du n'importe quoi.
Il veut leur cœur. Hein.
Ben oui.
Il veut leur cœur.
Bien plus l'obéissance du cœur que l'obéissance des règles, etc. etc.
Qu'il est mort, en fait. Qu'il les envahit tellement, ces sacrifices, ces lois, qu'ils en oublient Dieu, en fait. L'essentiel.
J'aime bien le verset 9 qui dit, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi.
Voilà. Donc la purification n'est pas dans l'acte de la circoncision ou des bains rituels ou des sacrifices. C'est bien ce que dit Pierre. Il rejoint en ça certains prophètes. Il rejoint l'enseignement de Jésus par la même occasion. Et je pense même qu'on pourrait dire qu'il rejoint finalement ce que le Saint-Esprit lui a appris au moment de l'affaire Corneille. Car rappelez-vous avec quelle difficulté Pierre a dû obéir.
Il n'acceptait pas. Hein.
Ben non. Par 3 fois, Dieu a dû revenir à la charge pour finalement le contraindre à entrer chez les païens. à oser cela, et puis à enseigner la bonne nouvelle par la même occasion. Donc ça n'a pas été simple, et donc dans sa chair, Pierre sait très bien que c'est pas facile pour un judaïsant d'accepter cette promiscuité avec les païens, même s'ils sont convertis. Ça leur pose un vrai problème.
Et il a été repris aussi quand il s'est esquivé, là, à la venue de ce Jérusalem. Là, il a encore repris de nouveau une leçon.
Oui, oui.
Alors que pourtant, il l'avait compris.
Mais oui, oui.
Il y a encore une hésitation.
Et Paul lui reproche, hein, dans Galates 2, si j'ai bon souvenir, de manière un peu sévère.
Finalement, s'ils mangeaient avec un païen, ils étaient impurs.
Bien sûr. Puisque les païens n'observaient aucune règle de cache-route.
Oui, donc dans leur vie quotidienne, oui, c'est énorme.
La moindre rencontre avec un païen pouvait être l'origine d'une impureté. Alors, elle peut être l'impureté physique, quasiment. Elle peut être aussi intellectuelle, morale ou spirituelle. Parce qu'accepter d'un païen certains arguments, c'est prendre le risque de dévier de la voie ou de la loi, tout simplement.
Ouais.
Donc c'est pour ça que je disais que ce n'est pas un débat simple. Ce qui se passe là à Jérusalem est terrible.
Mais Jésus a voulu se propager, en guillemets, sa foi, la foi en lui, en foi en son Dieu, etc. Et pas des lois. C'était ça qui était plus important que quoi que ce soit. Donc maintenant, moi je ne comprends pas pourquoi on exigerait des païens d'exiger la loi, que celui qui veut le faire, ben, à ce moment-là, il se rapproche plus de ce que tu dis, du peuple de Dieu, disons. Mais il y a quand même autre chose. Si on veut propager dans le monde entier... Hein, la foi chrétienne, c'est pas obligé tout le monde à suivre une loi d'un peuple.
Oui, ça voudrait dire tout le monde doit être juif pour être sauvé.
Oui, or ça c'est...
Or, c'est justement ce que Dieu cherche à toucher toute l'humanité sans condition, sans poser de condition.
Ben, au moins, une condition, c'est la foi.
Purification par le Christ,
voilà, c'est ça.
Etc.
Enfin, moi, c'est comme ça que je veux.
Mais c'est vrai que si on essaie de se mettre dans la peau d'un juif, Jésus était juif, Marie était juive, tous les apôtres étaient juifs, donc ça n'a pas dû être évident.
Et Jésus s'est soumis à la loi juive, parce que même le baptême de repentance, il n'avait pas besoin de le prendre, lui. Il l'a fait pour.
Et chaque fois qu'il allait au temple, il faisait les ablutions comme tout le monde, etc. etc. Tout à fait.
Par contre, il a guéri des païens
le jour du sabbat.
Oui, et il a même touché des païens.
C'est sûr.
Ou des publicains, hein, des collabos.
Si je me souviens bien, dans l'Ancien Testament, c'était le contraire. Le non-juif qui trouvait que la religion juive était la bonne, il pouvait se rajouter.
Oui.
L'esclave qui avait décidé de rester pouvait devenir libre et être inclus dans le peuple. L'étranger pouvait être accueilli. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, il prenait les règles et les traditions juives avec.
Bien sûr.
Mais en Jésus-Christ, tout ça disparaît.
Oui.
C'est le contraire. C'est l'ouverture vers les juifs, mais... Sans règles.
Donc, en fait, si tu veux, on pourrait peut-être résumer en deux mots. Soit on est dans le particularisme, il faut être juif pour être sauvé, soit on est dans l'universel. Et comment, et c'est là que Jacques essaie de trouver le compromis entre les deux, comment satisfaire le particularisme des juifs et observer qu'il y a quand même une ouverture aux païens que Dieu a suscité. C'est pas juste les apôtres ont décidé qu'eux, ils ont une stratégie. Non, ils ont été forcés par le Saint-Esprit de s'ouvrir aux païens et d'annoncer Jésus aux païens. Donc voilà, c'est pas... Voilà, maintenant donc comment on fait?
Donc les juifs sont plus proches, disons, de leur loi que de suivre ce que Jésus dit.
En tout cas, on a bien vu dans ce qu'on avait étudié dans les Actes que la plupart de nos amis dont on étudie la vie... continuent à pratiquer les rites, ils vont au temple, ils font les prières du soir, etc. etc. Pour eux, la chose en plus, c'est la reconnaissance du Messie. Et l'accomplissement, ils ont la conscience que les prophètes les prophéties sont accomplies au sujet de la messianité. Voilà.
Et maintenant, un juif qui se convertit doit quand même continuer, alors?
Ah ben, dans, parmi les juifs messianiques, beaucoup continuent le sabbat, l'observance de règles, etc. Sauf qu'on sait qu'il n'y a plus de culte. Donc nécessairement, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de purification, il n'y a pas tout ce tralala. Il y a un courant rabbinique qui a remplacé tout cela. Et donc parmi les communautés messianiques, il y a un certain nombre de rabbins qui jonglent avec les deux, avec des éléments de l'ancienne alliance et des éléments de la nouvelle. Voilà. Ça ne leur pose aucun problème.
Mais quelle est leur attitude des vrais juifs vis-à-vis des autres?
Des messianiques?
Oui.
Bah, ils ne sont pas très contents.
Ah oui,
bah oui, parce que ça, eux, ça leur pose un vrai problème.
Mais ça continue à rester un vrai problème.
Oui, parce qu'ils considèrent que justement le christianisme est une sorte de rapte du judaïsme. On a confisqué une part du judaïsme pour en faire une nouvelle religion. Ben, c'est leur perception. Mais pour moi, elle n'est pas juste.
C'est pas nouvelle.
Mais non, elle n'est pas juste. Non, non, elle n'est pas juste dans le sens que si on est fondamentalement chrétien, disciple du Christ, on considère le judaïsme comme un héritage.
Oui.
Et pas comme un opposé.
Ah, oui, oui,
c'est le tronc sur lequel nous sommes greffés. Mais bon, je suis bien conscient que l'Église n'a pas toujours eu cette juste vision. Donc on a fait beaucoup de bêtises à ce sujet. Du coup, les Juifs sont très méfiants. Par contre, les Juifs messianiques en Israël, tout en étant quand même tenus à l'écart, sont assez appréciés. Parce qu'ils ont beaucoup d'œuvres sociales, entre autres. Très dynamique. Voilà, donc là, je ne sais pas où on en est, mais peu importe. Non, je termine avec notre ami Pierre, comme ça, on va dire qu'on a fini cette intervention. Au fond, en leur rappelant je pense au verset 7, en leur rappelant ce qui est à l'origine du débat, c'est-à-dire l'affaire Corneille, il est en train de leur dire, au fond, mes amis, vous devez être conscient qu'il y a une jurisprudence qui existe depuis 10 ans. C'est qu'on n'a rien demandé aux gens d'origine païenne. Est-ce que maintenant, 10 ans plus tard, on va obliger ces convertis, qu'on pourrait presque parler d'anciens convertis, à devenir juifs, juste pour apaiser les craintes du courant le plus judaïque de Jérusalem? Voilà. Et lui, donc, il prend position. Pierre prend clairement position dans ce petit discours en leur disant, finalement, moi, je crois que les chrétiens incirconcis ne doivent pas être soumis à la loi juive. Point final. C'est, au fond, on pourrait parler de statu quo. Pierre milite pour un statu quo. Ce qu'on a fait avec Corneille, on doit le faire aujourd'hui pour les païens de la diaspora. On ne va pas commencer à changer les règles. Alors ça, c'est sa position. Et puis, ça donne quoi comme résultat?
Il y a plus silence.
Voilà. Alors là, je pense qu'il a fait mouche quand même. Quelque part, alors, il y eut un silence dans toute l'assemblée. Bon, les versions varient, hein. On ne va pas se disputer sur la traduction, mais globalement, cette phrase, elle contraste avec la longue discussion du début. Vous voyez ? On n'arrivait pas à arrêter cette discussion. Là, Pierre parle pendant, 20 minutes, disons, une demi-heure, et puis là, silence complet. Donc il faut bien se dire que c'est pas... Il y a les anciens de l'Église de Jérusalem, il y a tous les apôtres, et puis il y a des centaines de personnes qui assistent à cela. Pas un murmure, pas un bruit.
Donc finalement, c'est Barnabas et Paul qui vont...
Qui vont briser le silence.
Oui, et pas que briser le silence. Faire en sorte que ce que
Paul...
Appuyer ce que Pierre a dit, c'est comme ça. Parce que,
ils ont un témoignage.
Parce que Dieu...
La première des conclusions, c'est que ceux qui étaient pour la circoncision ne trouvent rien à redire. Voilà. Donc il n'y a pas une voix qui s'élève de manière protestatoire ou de manière véhémente pour dire « mais non, Pierre, tu es à côté de la plaque », etc. Non, c'est le silence total écrasant parce que tout le monde est à perte. Enfin, il n'y a pas d'argument.
Mais mieux qu'ils n'ont rien à redire. Ben, en plus, on insiste, on prouve.
Après, on n'est
pas dans une prédication ici, on est dans un débat
où
tout le monde, à tout moment, aurait pu reprendre le crachoir.
Ouais.
Mais là, non. Parce que je pense qu'il a quand même épuisé, avec l'idée de jurisprudence, je pense qu'il a éclipsé une grande partie du problème. Ça ne le résout pas. Donc l'intervention de Pierre ne résout pas le problème. La question soulevée, pure, impure, circoncision, loi, etc. Non. Mais il a dit son point de vue sur comment il avait vécu l'affaire Corneille et comment il pense qu'il faut continuer à vivre cela. Et puis ce silence, assourdissant, va être brisé par le tandem. Évidemment, c'est normal, parce que c'est à cause d'eux que ce débat a lieu. C'est à cause de leur job que, finalement, Antioche envoie la délégation et suscite le débat à Jérusalem. Donc, c'est normal qu'ils prennent la parole en deuxième.
Ils enfoncent le clou.
Quelque part. Alors, on ne sait pas qui a dit quoi. On ne connaît pas la longueur de l'intervention de Barnabas et Paul. En tout cas, on peut dire qu'ils sont au moins multipliés par deux. Ne serait-ce que ça, déjà. Le verbe, le premier verbe, au verset 12, c'est « Puis l'on écouta Barnabas et Paul ». Alors, certains verbes en français sont à l'imparfait, peu importe. « On écoutait ». Sous-entendu, une durée. Donc, ils ont développé un certain nombre de choses qui a duré dans le temps.
Ils ont une sacrée histoire à raconter.
Bien sûr. Alors, on n'est pas simplement devant qu'est-ce qui s'est fait à Antioche. On est devant qu'est-ce qui s'est fait dans ce long premier voyage de quelques années de Barnabas et Paul, en passant par Chypre, puis la Pamphylie, puis la Galatie, etc., etc., la Pisidie. Où on sait qu'ils ont créé des églises un peu partout.
Mais pourtant, c'est de la redite. Parce qu'au verset 4, au verset 3, racontant la conversion des païens, ils causèrent une grande joie à tous les frères.
Oui, à Antioche.
Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Donc, ils avaient déjà raconté.
Oui.
Ça avait créé un mouvement de joie. Yes, on adhère.
En terre païenne.
En terre païenne.
Oui. Mais il y a opposition et ils sont obligés de recommencer.
Exactement.
Ou de compléter, peut-être, je ne sais pas, ou les deux. Recommencer encore une longue discussion sur ce qu'ils ont vécu.
Ouais. Mm-hmm.
Ils n'ont pas le même auditoire.
Ah là non, mais c'est la redite si tu veux.
Oui, c'est la redite.
Ils vont rien inventer de plus que ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont défendu à Antioche.
C'est pas les mêmes gens.
Tellement de choses.
C'est
ça. Ça a été fait en deux fois apparemment, parce que les anciens se réunirent pour examiner cette affaire.
Voilà.
Donc il y a eu d'abord un mouvement de joie, puis il y en a qui ont dit non, stop, ça ne va pas. Et puis ils se sont réunis, ils ont dit il faut qu'on discute.
Ceux qui ont dit stop, c'est les judaïsants, évidemment.
Voilà. Et il a fallu recommencer encore de leur part.
Ah, maintenant je comprends ton histoire de doublon. Je pensais que tu faisais référence à Antioche. Il y a déjà eu un rapport à Antioche.
Non, ils sont à Jérusalem.
Voilà, à Jérusalem en arrivant.
Ils ont déjà fait un rapport.
Oui, tout à fait.
Et ils sont encore obligés de le refaire en quelque sorte.
Voilà, ils le font devant tous. C'est-à-dire qu'au début, c'était sans doute juste avec les anciens, etc. Mais là, on ouvre le débat devant tout le monde. Donc, or, qu'est-ce qui se passe dans l'église de Jérusalem? Beaucoup de gens sont judaïsants, aussi judaïsants que les pharisiens. Donc, ils ont aussi besoin d'entendre, même si c'est une redite, hein, en tout cas pour les responsables, c'est important que les gens entendent leur témoignage. Et donc, ils vont adopter exactement la même stratégie que Pierre, les faits et rien que les faits. Donc, on ne trouve aucun argument dans... D'ailleurs, on ne nous rapporte même pas leurs paroles dans cette section, déjà. On nous dit juste de quoi ils parlent. Prodiges, miracles, etc. Mais on se rend bien compte qu'ils font la même démonstration que Pierre. ils vont parler des faits sans s'accrocher à la thématique « faut-il circoncire ou ne pas circoncire ?» C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est d'apporter de l'eau au moulin de Pierre, qui est de leur dire « mais écoutez, Dieu sait ce qu'il fait. » C'est quand même à cause de Dieu que des dizaines d'églises existent maintenant dans la diaspora juive, un peu partout dans le bassin méditerranéen. Et même si on nous accuse, nous, d'avoir provoqué ces conversions, c'est Dieu qui nous a envoyés. Bon. Donc, démonstration. Le premier argument, c'est dire c'est Dieu qui a organisé l'ouverture aux païens. Il n'a pas imposé la loi à quiconque. C'est lui qui a cautionné notre ministère. Et ce ministère demandait juste l'adhésion au Christ, la foi au Christ Jésus. Point à la ligne. Ce qu'il va défendre, on trouve ça au chapitre 13, on trouve ça au chapitre 14, on va retrouver les mêmes arguments dans Galates 2, etc. Deuxième argument, il leur dit, si Dieu avait voulu la circoncision et l'observance de la loi, il l'aurait imposé d'office. Dès la Genèse des conversions, y compris, sous-entendu, l'affaire Corneille. Et cela aurait d'ailleurs posé un réel problème, si ça avait été le cas. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, parce qu'on pourrait alors se poser la question, c'est quoi le salut en Jésus, alors ? Si le salut en Jésus nécessite la circoncision et l'observance de la loi, qu'est-ce que ça change ? Rien. Jésus n'aurait mieux fait de pas venir et de pas mourir sur une croix. C'est totalement inutile.
Bon. Ça montre un petit peu la dualité qu'il y avait chez ces pharisiens, convertis, mais encore tellement attachés à la loi. Il devait y avoir un bazar dans le texte.
Et je pense pour la plupart, même ceux qui n'étaient pas pharisiens, ça ne devait pas être simple.
Sous l'emprise de la loi.
Ouais. Oui. Mais enfin, quand tu as été éduqué comme ça depuis gamin.
C'est ce que je dis, c'est normal. Toute la vie était réglée sur la loi.
Oui, allez, moi, dans le temps, et je pense encore maintenant à certaines personnes âgées, si je ne vais pas à la messe dimanche, si je vais à un mariage samedi à 4h, est-ce que c'est valide? il y avait ce genre de questions, mais c'est exactement la même chose.
Tout à fait.
Ouais.
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 Et manger du poisson.
Alors, ce qu'on découvre là, juste dans ce petit encart sur Barnabas et Paul, c'est qu'au fond, ils vont se contenter de parler de ce qui s'est passé. Signe, prodige parmi les païens. Et au fond, ils soulignent que pendant toute la durée de leur ministère, qui a quand même duré quelques années, ce premier voyage missionnaire, jamais Dieu n'a revendiqué une quelconque application de règles aux païens. Et notamment pas de circoncision.
Sinon, Dieu n'aurait pas agi en faveur des gens. Quand Jésus vient dans son village, il est dit, il ne peut rien, presque pas faire de miracle parce qu'ils ne croyaient, ils n'ont pas cru. Donc, or, les gens-là qu'ils ont rencontrés ont cru en Jésus-Christ. Donc Dieu peut faire des miracles. Je ne sais pas.
C'est l'œuvre de Dieu.
Alors, on suppose que cette démonstration de Barnabas et Paul a dû durer un moment, surtout s'ils ont fait tout le tour, en passant d'Antioche, Chypre, etc. S'ils suivent leur pas et qu'ils expliquent ce qui s'est passé un peu partout, ça a pu durer un certain temps, et bien sûr apporter du poids à ce que Pierre avait lui-même posé comme premier fondement de la discussion, en réponse aux plaintes des judaïsants, etc. Et donc, une fois qu'ils achèvent, c'est ce qu'on nous dit, une fois qu'ils ont achevé leur démonstration, Jacques prend immédiatement la parole. Et je suppose que ça a quand même dû demander à Jacques énormément d'efforts intellectuels, entre autres, pour suivre les débats, se faire une opinion et voir comment il allait sortir tous les courants, donc les judaïsants d'un côté, les incirconcis de l'autre, de la problématique posée. Comment en finir avec ce débat sans que ça dégénère en conflit ouvert, en séparation, en déchirement, ou en insulte, hein, pourquoi pas, comment faire? Et moi, je trouve qu'il a trouvé une manière, enfin, il a trouvé, le Saint-Esprit l'a vachement aidé à trouver la bonne proposition à faire. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que Jacques fait? Alors, c'est très habile hein, aussi. Je pense qu'il essaye de contenter autant les judaïsants que les chrétiens d'origine païenne. Ou, pour le dire à la Belge, trouver le meilleur compromis possible, dans lequel personne ne se sent perdant. Tout le monde a gagné, personne n'a perdu.
Ça me fait rire, ça, parce que quand tu vois les débats politiciens, ils ont tous gagné.
Mais c'est un peu la situation. Non,
même quand tu perds, oui. Quand tu vois... parce que ça, c'est tellement... Oui.
C'est fou de voir Jacques qui, d'abord... redémarre avec Pierre, et il va chercher un argument, alors là c'est indiscutable, hein. Mm-hmm. Les nations païennes sont devenues un peuple qui porte le nom de Dieu. Mm. Alors que les juifs ont toujours essayé que tout le monde porte le nom de Dieu, subitement, les nations païennes qui ne croyaient en rien, ou en des dieux, des divinités païennes, des idoles, eux, ils portent le nom de Dieu. Alors ça, c'est un argument. Ceux que vous avez détestés, ceux que vous avez détestés ont maintenant, sont maintenant la défense de Dieu. Ça, c'est un argument.
Puis le fait est que, c'est compliqué. Ce qui est assez intéressant dans le discours de Jacques, à contrario des autres qui parlaient des faits qu'ils ont vécus, lui va utiliser l'écriture.
Ouais.
Lui, il va chercher quelques arguments théologiques qui puissent faire poids auprès des judaïsants. Il dira, mes amis, vous voulez parler de l'écriture, vous voulez faire observer la loi, ben allons-y, allons voir ce que nos écritures disent au sujet des païens. Comment Dieu voit les païens? Mais l'habileté de son discours, je pense verset 16 par exemple, c'est quand même de dire, écoutez, la maison de David, ou la... Alors, certaines versions, la tente, ce qui est d'ailleurs le mot tabernacle, hein, en grec, la hutte, enfin, peu importe, il décrit un état de délabrement. Vous vous revendiquez du Dieu d'Israël. Vous êtes Israël, le grand peuple d'Israël. Mais regardez-vous, c'est misérable. Nous sommes des piètres reflets de notre roi David, qui est pourtant la star hein, en Israël encore aujourd'hui. Parler de David, c'est on a tout dit quand on a parlé de David, figure du Messie, etc., etc. Donc il leur dit, écoutez, moi je pense que on est plutôt devant les ruines de notre histoire et on ferait peut-être bien d'accepter ce que Dieu a fait pour les païens. Et donc verset 17. Le reste des hommes, sous-entendu les païens, chercheront le Seigneur avec toutes les nations qui portent mon nom.
Mais c'est après que Dieu ait réparé les ruines.
Et ça, c'est l'action messianique.
Redressé. Donc il y a quelque chose qui se passerait avant. Je ne comprends pas très bien...
Donc, lui, il dit que les prophètes ont dit que même cette maison d'Israël, à moitié délabrée, va être reconstruite. Mais ce qu'il essaye habilement de dire, c'est pas juste avec les Juifs. C'est avec toutes les nations. Donc, la reconstruction de la maison de David, sous-entendu l'accomplissement de la messianité, c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Pourquoi le Christ est venu? Il est venu pour toutes les nations, pas juste pour sauver les Juifs de quelque chose.
Donc la reconstruction se fera à l'aide des païens reconvertis et pas rien que les Juifs.
Exactement.
C'est ça. Hein.
Voilà. Donc c'est ça la grande vision messianique, c'est qu'on a affaire à un salut universel qui touche l'humanité. Donc personne n'aura à souffrir d'une espèce de rejet qui serait lié juste à la particularité d'être juif. Voilà. Donc, si tu es circoncis, t'es sauvé. Si tu n'es pas circoncis, t'es pas sauvé.
Voilà. Mm-hmm. Donc, ça limite.
Et les femmes, elles sont sauvées de toute façon.
D'office. Voilà. Alors là, c'est, moi, je trouve ça génial, perso. Génial.
On est toujours.
D'ailleurs, oui. Tu le vois dans les histoires de l'Ancien Testament. Des femmes comme Ruth, etc., qui, du jour au lendemain, deviennent juives, alors qu'elles ne le sont pas. Oui. Mais c'est aussi parce qu'être juif n'est pas lié à une race. Oui. Être juif est lié au cœur et à l'esprit.
Et à une loi.
Donc les femmes ont un avantage.
Respecter certaines choses aussi.
Par contre, si une femme suit Israël et qu'elle devient juive, d'office, sa progéniture est juive.
Mm-hmm. Ah oui.
Voilà. Faut bien gagner quelque chose. Hein. Non. Donc on voit que dans l'histoire, il y a déjà eu des mécanismes qui ont fait que des païens ont adhéré au peuple d'Israël, comme une espèce de prémisse, si vous voulez. Puis maintenant, Dieu est en train de leur démontrer, enfin Jacques entre autres ici, que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est avec les païens qu'on va reconstruire le grand Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu.
C'est aussi la réalisation de la promesse faite à Abraham.
Exactement.
Il n'en parle pas ici, mais oui. Si on remonte après David, il y a Abraham, et Dieu a dit que sa descendance serait aussi grande que les grains de sable sur la plage, mais il a parlé de toutes les nations. Exactement. Pas seulement la nation d'Israël, mais toutes les nations.
Et c'est d'ailleurs dans le début des Actes, on a vu que c'était un des arguments. Cette histoire d'Abraham est utilisée par certains dans leur approche du judaïsme. On peut leur dire, mais écoutez, il faudrait savoir, c'est quand même à Abraham qu'on a promis que... voilà. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ça s'est réalisé? Il y aurait beaucoup à dire sur le discours de Jacques, mais je voudrais attirer votre attention sur deux, trois choses. On ne peut pas tout examiner en détail, mais on a une première apostrophe au verset 13 qui est « Frère, écoutez-moi ». Elle marque évidemment, on l'a déjà dit dans le passé, une fonction d'autorité. Donc il rappelle, c'est un hébraïsme en fait, hein, qui rappelle que maintenant c'est moi qui ai la parole et ce que je vais dire est important. Alors soyez attentifs parce qu'on va peut-être aller vers une solution.
Mais quand Joséade a lu, elle a dit « homme, frère
oui. ».
Et en fait en grec c'est ça.
Exactement.
Mais c'est homme,
masculin.
Les mâles, oui.
Oui.
Là on est exclu.
Là seulement maintenant tu comprends, il a fallu le temps déjà.
Non, elle a bien compris parce que homme pour nous c'est homme et femme. Or elle vient de mettre l'accent sur le fait que.
Mais parce que j'ai le texte grec. Oui. Et pourquoi, pourquoi il précise que c'est uniquement les hommes
mâles.
Ça fait partie de la culture aussi. Hein.
C'est comme ça qu'on comptait quand on a fait la multiplication des pères. On ne parle pas des femmes. Hein. Sans compter les femmes et les enfants. Du beurre, tout ça.
Donc, revenons à nos moutons. Alors, stratégiquement,
bouton noir.
Stratégiquement, qu'est-ce qu'il fait? Verset 14, il approuve le discours de Pierre. Donc là, il cloue le bec à tout le monde déjà, parce qu'on s'attendait peut-être à ce que Jacques, qui est quand même judaïsant, hein, attention, Jacques est un type assez fidèle à la loi. Donc on s'attendait à ce qu'il se démarque un peu de Pierre quand même, mais non. Et puis il ajoute en plus un argument en lien avec les prophètes, au verset 16 et 18, hein, où il va beaucoup plus loin en disant aux judaïsants, attention, même nos Écritures parlent de cette ouverture de Dieu au monde, à l'humanité, aux païens, etc. Donc on doit être attentif à ce que Pierre a raconté, ce que Barnabas a raconté, ce que Paul a raconté. Et puis, dans la suite, il va se démarquer en cherchant à formuler un compromis. Le plus juste possible, le meilleur possible, qui tienne compte, comme je l'ai dit, autant des aspirations des judaïsants que des incirconcis. Et contrairement à ce qu'on a dans nos traductions, il ne dit pas « je pense que ». C'est pas le type, non, il dit « c'est moi qui décide ». Ah oui, en grec, c'est très clair.
Moi, je décide.
C'est pas je suis d'avis ou je pense. Oui. Non.
Et c'est pas
c'est pourquoi moi, je décide.
Et c'est pas je dis, c'est
d'accord.
Moi, je décide.
Ça nous aide à comprendre que ça veut dire que tout le monde comptait sur lui parce qu'il est l'autorité parmi les autorités. Donc on compte sur lui pour synthétiser le débat, donner une solution et faire en sorte que cette solution soit viable.
Et acceptée par tous.
Voilà. Et ça, c'est un tour de force assez incroyable. Hein.
Je dévie ici, mais je me pose une question. Pourquoi est-ce que Jacques a été le chef de l'Église? Est-ce que c'est parce qu'il était le frère de Jésus, tout simplement, ou il y avait autre chose? On ne sait pas.
Alors, je crois que la plupart des commentateurs, dans ce que j'ai lu, moi... Hein, disent que la montée au pouvoir de Jacques est liée à l'affaire Corneille. Et donc, Pierre a perdu des plumes, à cause de ça, mais comme il était Pierre, qui a quand même une grande gueule, charismatique, etc., on ne l'a pas évincé, mais il a perdu la fonction qu'il avait, qui était quand même de gérer l'Église. On le voit bien dans les débuts de l'histoire des Actes. Donc, après l'affaire Corneille, sans que ce soit dit dans le texte, on sent qu'il n'a plus la même place. D'ailleurs, lui-même va partir en mission à l'étranger, etc. On sait tout ça. Il va un peu abandonner Jérusalem. Mais je pense avec confiance. Je pense que tout le monde a confiance en Jacques aussi. Alors, frère de Jésus ou pas, je pense que ce qui compte, c'est ses capacités. Et on le voit ici à l'œuvre, avec quelle doigté, finalement... Il va mettre fin à ce débat tendu, difficile, et pour lequel personne n'aurait parié qu'il y ait une solution. Alors on va essayer de voir en quoi c'est génial. Donc d'une part, il va demander aux juifs messianiques de renoncer à exiger la circoncision. D'autre part, il demande aux païens convertis de se plier au respect de quelques exigences légales tout à fait acceptable. Donc, ce n'est pas plus pour les uns, moins pour les autres, c'est kiff-kiff, tout le monde doit abandonner une grande partie de ce sur quoi il avait établi son vécu. Les Juifs doivent abandonner l'idée que la circoncision est la seule chose qui puisse caractériser le salut, et les autres doivent abandonner leur liberté totale au profit de quelques observations. Et on va voir lesquelles. Alors, le texte dit d'ailleurs en grec, au verset 19, il utilise un verbe qui est empêcher de passer. Hein. On dit dans la version de la Top, c'est ne pas accumuler les obstacles devant eux, devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu, etc. En grec, c'est un verbe assez fort qui consiste à dire il ne faut pas empêcher quelqu'un de passer, sous-entendu de passer. Vers la connaissance de Dieu, sous prétexte qu'il leur faut la circoncision. Donc, c'est un peu comme si Jacques considérait alors la circoncision comme un obstacle. Un obstacle réel à la foi. Et il a raison. Il a raison. Car s'il fallait la circoncision, la foi ne tient plus. Ça ne sert plus à rien, quelque part. Donc, et en plus, c'est un verbe unique en grec dans le Nouveau Testament. Bon, c'est le seul usage de ce verbe. Donc ça veut dire qu'il a quand même une fonction importante, il faut bien le comprendre. Ne mettons pas d'obstacles là où il n'en faut pas. Et pour les païens, la circoncision va être un obstacle. Ce sera un obstacle à la liberté de croire, etc. Et alors il préconise une lettre ouverte. Alors, dans la Tob, on dit « écrivons simplement », peu importe la traduction. L'idée, c'est de communiquer par écrit aux églises déjà existantes judéo-chrétiennes, mixtes, un modus vivendi, une manière d'être, une manière de vivre, leur incorporation au peuple de Dieu. Et alors, il développe quatre thèmes. Quatre concessions à faire pour préserver la paix, l'unité de l'Église et la qualité de la communion, car c'est ça qui est en jeu. La première chose, c'est de s'abstenir des viandes immolées. Ah, vous me direz, bon, Ça veut dire quoi? Est-ce que les incirconcis allaient encore dans les temples des idoles? Non.
Non, ils achetaient.
Ah voilà. Ouais. Il se trouve que la viande immolée, en fait, si vous voulez, il n'y avait pas de boucher. Donc, c'était la viande des temples qui était vendue ensuite sur le marché.
Ah ouais.
Donc, nécessairement, si je suis incirconcis, j'ai la liberté d'aller acheter cette viande au marché, mais qui a été consacrée à des dieux, à un dieu. Et ça, pour un juif, c'est inacceptable. Il ne peut pas manger. Je ne peux pas aller manger chez lui. Mais je ne peux pas non plus accepter qu'il vienne chez moi, puisqu'il bouffe des cochonneries. Des trucs offerts aux démons et compagnie. Donc c'est pas pensable. Donc il leur dit, première des choses, s'abstenir des viandes immolées aux idoles pour éviter justement la contamination par l'impureté. Et la plupart de ces viandes étaient vendues totalement librement sur le marché. Et cette demande-là, cette première demande, je pense qu'elle va viser à calmer les revendications légalistes des Juifs, notamment sur le thème de pur et impur. Ça va régler le problème. Si les païens acceptent de ne plus acheter de viande offerte aux idoles, ben, on a déjà éliminé un gros, gros, gros problème.
Nous pouvons manger ensemble.
Voilà, facilement. Exactement. Quitte à manger cachère.
Oui.
D'apprendre à manger cachère. Deuxièmement, s'abstenir de la fornication. Alors, peu importe les traductions de nouveau, certains ont débauche sexuelle, mais là-dedans, l'immoralité, on peut mettre tout ce qui a trait à l'impudicité, y compris l'homosexualité, puisqu'à l'époque, l'homosexualité est aussi cultuelle. Donc, tout ce qui peut rappeler les cultes aux païens doit être éliminé. Et puis, bon, la fornication, c'était courant dans les cultes païens. Hein, les orgies, les orgies sexuelles et toutes ces choses-là. Donc, il faut aussi se démarquer. Si je suis incirconcis converti, je dois franchement me démarquer éthiquement du comportement des autres païens. Je ne peux plus faire comme. Et donc, accepter ou adopter la chasteté comme un modèle de vie, si vous voulez. Donc ça, c'est le deuxième. La troisième, un peu étrange, parce que je dois dire que ce n'est pas courant qu'on sache de quoi il s'agit, s'abstenir de l'étouffer. En grec, on dit de l'étrangler. Ça veut dire quoi? Sous-entendu, ne pas consommer de viande d'un animal qu'on a étouffé ou étranglé. Déjà, parce que c'est une cruauté. Imagine, tu empêches quelqu'un de respirer, c'est pas très chouette, comme mort en tout cas. Et puis deuxièmement, parce que le sang demeure alors dans le corps. Or, le sang, pour un juif, c'est la vie. On ne pouvait manger aucune viande qui n'avait pas été saignée correctement. Donc, il faut vider complètement le corps du sang qu'il comportait en respect à la notion de vie. Voilà, Adam, c'est la vie, finalement. Le sang, c'est la vie. Sans doute aussi, peut-être, aussi à cause de la croix, quelque part. Le sang qui a coulé sur la croix doit suffire, en réalité. Donc tout ça est contraire à la loi, effectivement. Manger un animal qui n'a pas été égorgé correctement, dont on n'a pas vidé le sang et lavé, etc., etc., ça, c'était pas possible non plus. Et puis, dernière chose, alors un petit peu plus énigmatique encore, c'est l'idée de s'abstenir du sang. Alors, certains commentateurs disent, oui, ben, c'est en lien avec le point précédent, hein, il faut vraiment saigner une bête complètement pour pouvoir la manger. On se demande bien pourquoi il faudrait une redite. Pourquoi 2 sur 4 seraient plus ou moins du même style? Alors, oui, le point commun, c'est que le sang, c'est la vie.
Ouais.
Ça, d'accord. Donc, on peut peut-être comprendre cette interdiction à un autre niveau. Ne pas faire couler le sang d'autrui. Ne pas tuer. Ne pas commettre un meurtre. Ne pas cannibaliser l'autre. Car il faut bien se dire que parmi les païens, il arrivait qu'on mange de la chair humaine aussi. Donc, tout ça est interdit. Alors, on nous fait observer dans les commentaires en général que ces 4 points font partie des 7 règles qui correspondent à ce qu'on appelle les lois de Noé. Alors, les lois de Noé, c'est quoi? Alors, je vais citer rapidement. Avoir un système judiciaire, ne pas blasphémer, ne pas adorer des idoles, interdiction de l'inceste, du meurtre, du vol, ne pas être cruel envers les animaux. Donc, c'était ça, les lois. Mais ces lois n'existent nulle part. C'est-à-dire, elles ont été rédigées sur base de l'histoire biblique seulement au IIe siècle. C'est-à-dire, bien avant ce qu'on est en train d'étudier. D'accord ? Mais ces lois existent. On en parle. Mais elles ne sont pas encore rédigées dans le Talmud.
Donc, écrites au IIe siècle de notre
oui,
ère ?
Oui, de notre ère, oui. Ah. C'est-à-dire que les rabbins ont fait un travail au travers de l'écriture du Talmud, pour dire, mais c'est quoi les règles? Comment les hommes pouvaient vivre au temps de Noé, alors qu'ils n'avaient pas l'alliance, qu'ils n'avaient pas la loi? Eh bien, ils observaient ces règles-là, globalement. D'ailleurs, vous apercevez que ça rejoint les travaux de Lévi-Strauss, etc., de tous ceux qui ont étudié l'histoire des hommes. Ils disent que, de manière universelle, il y a des tabous, et ces tabous, ces cannibalismes et tout ça, interdits, incestes et tout. Pour la plupart des ethnies, la plupart des peuples. Donc c'est un peu comme si la loi était inscrite déjà dans les cœurs. Ça nous fait penser quand même à deux, trois choses. Donc au fond, ce que Jacques leur donne comme concession, c'est d'observer des lois universelles qui sont déjà là et que toute nation peut observer sans qu'on soit remis en cause dans sa culture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas « Ah, vous devez vous débarrasser de ci ou de ça ». Non, c'est juste observer ce que tout le monde peut observer, mais qui en même temps va permettre aux judaïsants d'accepter que si les païens s'engagent à ça, alors ça résout le problème de la relation. Ça résout le problème de la communion, finalement.
Oui, et qui sont finalement des lois qui se sont retrouvées graduellement dans la loi de Moïse.
Bien sûr, et développé, ouais, surdéveloppé même, ouais, parfois, ouais, surtout dans Lévitique. Hein. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et puis on a le dernier verset, alors là, je vous avais posé une question, parce que j'ai passé quand même un certain temps sur ce verset, pour arriver à pouvoir l'expliquer. Alors, le verset dit « Depuis des générations, en effet, Moïse dispose de prédicateurs dans chaque ville, puisqu'on le lit tous les sabbats dans les synagogues. » Alors, cette conclusion est bizarre. Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça veut dire?
On lit la loi, c'est ça? Ce serait un rapport avec
alors,
la loi?
Oui, il y a un rapport à la loi. D'ailleurs, dans tout le discours de Jacques, on voit bien ce qu'il essaye de faire. C'est d'utiliser le contexte. Le contexte, c'est le débat circoncision, pas circoncision. Donc, le rapport à la loi. Donc, il essaye de répondre, finalement, de trouver comment gérer ça. Mais sa conclusion, qui est tout à fait authentique, hein, il n'y a pas de verset sur lequel il faudrait dire « les anciens manuscrits disent pas ça », etc. Non, non, c'est très clair, c'est ça qu'il dit. Mais il n'y a que lui qui se comprend. Je pense que tout le monde comprend là-bas, à Jérusalem, mais nous, on a un peu de mal. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez trouvé une lecture qui vous aide. Un verset un peu énigmatique.
Non, apparemment.
Donc, pour pouvoir le comprendre, je crois qu'il faut vraiment replacer ce verset dans le contexte de ce débat difficile lié à la présence des païens dans les églises de la diaspora. Et ça, ça peut nous aider à mieux comprendre. Alors, première chose, je vais défendre ça en 6 points. Comment comprendre le verset? Première chose, il semble que Jacques oppose le statut particulier de Jérusalem, c'est-à-dire le haut lieu du judaïsme, l'église mère, à celui de toutes les autres villes. Oui, parce qu'il cite les villes de la diaspora, finalement. Quand il parle des villes, il ne parle pas d'Israël. Hein. Il parle des autres, ailleurs. Donc, il est en train de dire « Jérusalem a un statut particulier qu'elle ne peut pas perdre. Son statut d'église juive, à part entière, et qui est témoin parmi les juifs. Donc elle se doit d'observer la loi. » elle ne peut pas ne pas observer la loi si elle veut continuer à influer sur le judaïsme. Parce qu'à l'époque, tout le monde pensait que c'était gagné. On ne pensait pas qu'il y aurait une scission plus tard et que la plupart des églises juives doivent voilà, sortir du judaïsme pour subsister, quoi. Donc, il prône une église pour les juifs un peu différente de celle de la diaspora. Deuxièmement, du coup, les fameuses églises de la diaspora, qui sont situées en territoire païen, ont nécessairement un autre statut, celui d'église mélangée, d'église mixte, où se côtoient les juifs messianiques et puis les païens convertis. Et ceci pose alors inévitablement la question qui est venue sur le tapis, c'est-à-dire de la qualité des relations interpersonnelles, de la proximité, voire de la promiscuité, du pur et de l'impur. Troisièmement, il leur dit finalement, on ne peut pas demander aux Juifs d'oublier la lecture hebdomadaire de Moïse. Alors quand on dit de Moïse, on parle du Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre. Oui, je crois que j'ai tout dit. Donc les cinq premiers. On ne peut donc pas leur demander d'oublier la loi, en clair. Mais les quatre interdits demandés aux païens sont déjà connus des juifs. Ils les vivent déjà, eux. C'est intégré, c'est dans leur ADN. Et ils les respectent par amour pour la Torah, parce qu'ils aiment la loi, même s'ils n'arrivent pas à la vivre totalement. D'accord ? On leur dit, ça, c'est déjà gagné. Mais dès lors, c'est le quatrième point, la mixité oblige les églises de la diaspora, pardon, la mixité obligée des églises de la diaspora pose avec acuité la question pratique des relations. Quelle distance, quelle frontière, quelle mise à part, quelle pureté ou impureté, et aussi de la qualité de la communion. Est-ce qu'on est véritablement frère à part entière, sur un même pied d'égalité, entre juifs messianiques et païens incirconcis? En effet, comment ne pas froisser ou ne pas peiner les juifs messianiques, sinon en s'abstenant volontairement de tout ce qui pourrait briser la frontière entre pur et impur, et par là la communion elle-même? Donc il démontre, en fait, avec ce verset 21, que si on connaît la loi, on doit la vivre. Les païens dont ce n'est pas l'ADN ne peuvent pas l'observer totalement. D'accord ? Donc, à tout le moins, qu'ils essayent d'observer les lois universelles, celles de Noé, enfin, peu importe, hein, le détail. Et puis, il précise que la loi est lue, voire même méditer. La loi étant lue dans les synagogues juives et dans les synagogues messianiques, les frères d'origine païenne en connaissent maintenant les principales prescriptions. Donc Jacques part du présupposé que tout païen incirconcis converti va découvrir dans la lecture de la Torah qui est faite les prescriptions principales, libre à lui de les adopter toutes ou de n'adopter que les quatre préconisées par Jacques. D'accord ? Donc les quatre demandes formulées par Jacques aux païens, ça représente des concessions assimilables à ce que j'appellerais le strict minimum nécessaire pour maintenir l'unité et la communion. Elles sont demandées aux païens par égard pour leurs frères juifs qui observent la loi. Ils sont appelés, les païens, à vivre ces concessions en solidarité fraternelle avec leurs frères juifs.
Et les juifs doivent aussi, alors, inversement, respecter que les païens ne respectent pas
toute
la loi.
Oui.
Et que rien que les quatre que tu as cités.
Exactement.
D'accord, c'est un échange. Voilà, okay. Voilà.
Donc tout se joue autour, si tu veux, de la frontière entre pur et impur. Qu'est-ce qui peut faire qu'un juif considère un païen pur ?
Un juif ?
Oui. en tant que juif qui, moi, suis attaché aux règles de purification, etc., ben, c'est s'il observe certaines règles qui sont les miennes. Mm-hmm. Oui,
oui, mais pas toutes.
Pas toutes, oui.
D'accord. Alors, d'accord. Oh.
Donc un strict minimum qui permet la communion, par conséquent, ou de manger ensemble, tout simplement. Oui. Et puis, on peut aussi lire dans ce verset, d'une manière aussi, je trouve intéressante pour Jacques, Moïse a suffisamment d'observateurs et de prédicateurs de la loi dans le monde, sans qu'on ait besoin d'obliger les croyants d'origine païenne à observer toutes les règles que les juifs n'observent d'ailleurs pas. Hein, pas toutes. Ce qui est d'ailleurs impossible, verset 10, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc, juifs et païens sont finalement appelés à vivre en nouveauté de vie leur propre destinée. Être juif messianique, ce n'est déjà plus être fondamentalement juif. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en même temps, être incirconcis converti ne fait plus de moi un païen au sens traditionnel du terme. Donc, dans les deux cas, on a des choses à perdre et des choses à gagner. Et si on veut vivre en communion, dans la même communauté, alors il faut qu'on s'inflige les uns et les autres quelques règles. Alors, 4 pour les païens, 1 pour les juifs. Les juifs doivent juste abandonner l'idée que la circoncision, c'est le salut. C'est la seule chose qu'il leur est demandée. Alors qu'aux païens, on demande un peu plus quand même, qui est d'observer quelques grandes règles liées à l'histoire de l'Ancien Testament, à Noé, et puis etc. Quoi.
Ces grandes règles-là, respectées par les païens, sont aussi parfois respectées par les païens automatiquement,
oui,
suivant
ça peut arriver,
la nature.
Exactement, ça peut arriver.
C'était des lois universelles. Voilà,
donc, je veux quand même préciser une chose, vivre en nouveauté de vie leur propre destinée. Qu'est-ce que c'est qu'être juif messianique ? Qu'est-ce que c'est qu'être un païen incirconcis converti ? Ben, ça se passe sous l'éclairage d'un seul, c'est-à-dire de Jésus. Ce qui les réunit, c'est finalement la personne de Jésus, la place de Jésus dans leur vie, la foi qu'ils accordent à Jésus. S'il n'y avait pas ce trait d'union, tout part en cacahuète, très vite, à mon avis. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Alors, maintenant, je reviens au tout début de notre histoire, je ne sais pas quelle heure il est, si j'ai encore le temps, bon c'est l'heure. Juste essayer de conclure. Donc, on a eu 4 interventions. Les plaignants plaidant la circoncision, et puis ceux qu'on vient d'étudier, 3 autres interventions. En résumé, pour être membre d'un même peuple, il faut soit le maintien de la frontière, la mise à part, la circoncision, etc., soit l'ouverture à l'universel, c'est-à-dire que tous les hommes sont appelés au salut. La question est de savoir comment on y parvient. Et les thématiques qui ont pu être soulevées dans la première partie, dont on n'a aucun argument, hein, le long débat dont on nous parle au début, ben on ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, on le sait, parce qu'on a vu quels ont été les arguments des 3 autres. Qu'est-ce qu'ils ont amené sur le tapis ? Alors on peut conclure que peut-être les thématiques soulevées, ça a pu être les implications de l'ancienne affaire Corneille, tout ce qui va autour, pourquoi on n'a pas fait, pourquoi on n'a pas exigé, on aurait dû exiger, etc., etc. 2, la question épineuse de la frontière entre pur et impur. Comment on va déterminer que les païens sont purs ? Comment on peut côtoyer des païens si on n'est pas sûr qu'ils sont purs ? Et la meilleure manière d'être pur, c'est la circoncision. C'est l'observance de la loi. Ah oui, c'est logique, hein, tout simplement. Troisièmement, autre thématique, le désaccord concernant l'universalité. Est-ce que le salut est vraiment pour toute l'humanité ? Est-ce que c'est vraiment ce que la Torah raconte ? Est-ce que c'est ce que les prophètes disent ? Ben oui, Jacques va prouver que c'est effectivement la bonne vision, c'est une ouverture à toute l'humanité, sans passer par la particularité de l'observance de la loi. Ça, c'est tout à fait nouveau, évidemment. Jusque-là, faire partie du peuple de Dieu, ça sous-entendait quand même d'observer les règles. C'est comme ça qu'en tout cas se vivait le rapprochement des païens vis-à-vis du judaïsme. C'était de devenir eux-mêmes juifs, quelque part. Hein. Et puis, dernier peut-être thème, c'est les reproches adressés à Barnabas et à Paul, dont celui, par exemple, d'avoir ouvert le judaïsme aux païens de ces contrées lointaines, sans aucune contrepartie. Pas de règles, pas de circoncision. Et donc, ça a dû être un peu houleux à certains moments, là. Pourquoi vous avez fait ça, hein, etc. Voilà, je ne sais pas, maintenant, on peut terminer par quelques applications. Je ne sais pas si vous en avez. Moi, je pense qu'on peut en tout cas parler d'application au débat. Je trouve très intéressant le fait que Jérusalem ait osé ce débat public sur des questions aussi fondamentales que le judaïsme, la judaïté, le pur, l'impur, etc., en essayant de trouver une solution, finalement. Oui.
C'est un débat où il y a écoute des deux côtés.
Oui.
C'est oui, pas oui. vraiment ce qui se passe...
Oui, je pense que tout le monde voulait, tout le monde voulait une solution. Oui. Oui. C'est pas juste je défends.
Il y avait déjà, comment dirais-je, donc, le désir d'être ensemble, peut-être, hein, aussi.
Donc, d'ailleurs, Bernard nous l'a fait observer tout à l'heure, le premier contact d'Antioche avec Jérusalem à ce sujet, c'est tout le monde est content. Tout le monde trouve ça formidable, qu'il y ait des païens qui se tournent vers Dieu. Mm-hmm. Donc ça, c'est pas le problème. Mm-hmm. C'est pas le fait que des païens se convertissent. Le problème, c'est comment peut-on vivre ensemble.
Mm-hmm. Le vivre ensemble.
Oui. Mm-hmm. À cause de la loi. Mm-hmm. Que fait-on?
Oui, justement, la conclusion de Jacques est une idée que par tous ces intervenants dans cette discussion, personne n'a remis en question le fait que les païens sont venus à Dieu.
Oui, tout à fait.
Et c'est ce que tu viens de dire maintenant, ça c'est le bon résumé, c'est ils ne mettent en discussion que la frontière de la pureté. Exactement. Comment est-ce qu'un païen peut être pur? Mais en aucun cas, il n'est dit, oh oui, mais les païens, on n'est pas sûr. Hein. En aucun cas. Une application pratique pour moi, c'est que les discussions sur les idées bien ancrées sont toujours tenaces et ont la peau dure. Parce qu'à notre époque, on peut encore en vivre.
Bien sûr.
Il y a des communautés où on n'accepterait pas qu'une femme ne mette pas un foulard, parce que la Bible dit que « oh ». Il y a des communautés qui pensent qu'il faut respecter le sabbat, parce que c'est le seul. c'est une discussion dans la famille. C'est un... Le seul commandement que Dieu veut aussi pour les païens, qu'ils disent. Les adventistes sont forts là-dessus. Et on peut rajouter des tas d'idées que chacun voudrait imposer ou voir vivre par l'autre.
Et ils fêtent le sabbat et le dimanche, alors?
Dans le cas de la famille que nous connaissons, oui, ils font les deux. Mais il y en a qui ne font que le sabbat.
Samedi,
oui. Il y a l'idée... que si t'es chrétien, tu dois parler en langue. Mmh. Et à l'heure actuelle, c'est toujours un débat terrible, qui amoindrit celui qui a donné sa vie au Seigneur, mais qui ne parle pas en langue. Mmh. Et oui, on peut en rajouter d'autres. Hein, les discussions, il y en aura et il y en aura encore.
Mais à tout ce que tu viens de dire, il doit quand même y avoir un tronc unique et commun. Mmh. Les autres, je ne vais pas dire des exceptions, mais c'est des interprétations, vais-je dire, peut-être qui datent aussi
pour
de
l'histoire.
On voit que les troncs communs, ils sont ensemble et ils ont adopté, mais il y a des troncs communs qu'on n'arrive pas à voir. Voilà.
Oui, mais il y a un minimum quand même.
Je viens de lire un article d'un pasteur aux Pays-Bas. Il dit « Faisons attention au cannibalisme évangélique ». Les gens s'entrebouffent des fois, justement pour des trucs,
sur des idées.
Est-ce qu'il faut le sabbat ou pas le sabbat, et d'autres règles. Mmh. Et il y a aussi des règlements, des églises très strictes et violentes qui peuvent empêcher quelqu'un de venir à Christ. Parce que tu ne peux jamais être sûr. Hein.
Non.
Ça, tu dois implorer la grâce de Dieu, et c'est vrai qu'on doit... tous implorer la grâce de Dieu. On est sauvés par grâce.
Mais Dieu est amour.
Oui, il est amour et il veut nous sauver par grâce. On n'a rien mérité. Et non, mais il faut ceci et il faut cela, comme Bernard dit, certaines règles. être habillé en noir ou en gris et chapeau ou long cheveux et tout ça.
Ouais, mais c'était quand même des règles qui étaient respectées.
Mais, oui, même peut-être dans notre église, si on ne suit pas l'ordre du jour auquel on est habitué.
Mais tu sais, quand j'étais très jeune, à l'église catholique, les femmes qui avaient accouché étaient impures. Elles devaient attendre les relevailles, avant de pouvoir réintégrer la communauté. Quand j'ai appris ça, moi, j'étais choquée. Hein? Dieu nous dit, croissez, multipliez-vous. Et puis quand la femme met au monde, elle est impure. Oh, ça, je trouvais ça scandaleux. Tu trouves pas?
Non, ça n'aurait pas été bien juif. Là, il y en a des règles.
Pas pour faire durer, mais toutes ces règles-là, normalement, on est encore, je veux dire, sous ces règles-là, logiquement. Nous.
Les quatre trucs.
Ah ouais. Mais ça, on le retrouve pas vraiment au sein de nos églises. Hein. Enfin, si l'impudicité, oui, mais par exemple, la souillure aux idoles et tout ça, enfin.
Parfois, on peut se poser des questions. Est-ce que l'Église, dans le fait qu'elle a voulu se démarquer à un moment donné du judaïsme, n'a pas pris trop de liberté? Voilà. Mais en même temps, faut-il se battre pour savoir s'il faut manger cachère ou pas cachère, s'il faut manger que de la viande?
Voilà. Il y a des chrétiens qui ne mangent jamais de boudin noir.
Oui, mais si tu dis que le sang, c'est le sang qu'on verse si on va tuer, le boudin noir, c'est vrai qu'on est une bête. C'est vrai.
Oui, c'est ça, mais ce sont des idées que...
J'en ai entendu aussi, ça.
Maintenant, tu sais, chacun a une liberté aussi. S'il y a une conviction, tu ne l'imposes pas.
Là, ça a l'air d'être imposé, quoi.
Oui, mais toi, ta conviction que tu prends, tu ne dois pas l'imposer aux autres. C'est ça qui est important pour moi. Il faut accepter certaines... sur des choses... la base.
C'est toi qui m'en as... Je parlais de quelqu'un qui avait été manger des viandes, dans des restaurants arabes, alors qu'il savait bien que c'est de la viande arabe. Moi, je ne m'entendrais pas, personnellement, mais tu vas me dire, oui, c'est ridicule, ou je n'achèterais pas de la viande halal.
C'est moins cher, hein.
Mais oui, c'est moins cher.
C'est quoi la
elle est sacrifiée à Allah, tournée vers la Mecque, et on paye une redevance, pour qu'elle soit sacrifiée, pour que la bête soit tuée par un imam. Il faut qu'il soit reconnu, et tu dois payer une taxe là-dessus. Ah oui, elle est moins chère,
Alors, next time, on ferait plutôt les versets 22 à 35, donc on n'aura toujours pas fini le 15e chapitre, qui est très long. 22 à 35, c'est l'envoi de la lettre. Le frère d'origine païenne, Antioche de Syrie, la Cilicie. Donc on verra comment ça se passe. J'enverrai un questionnaire dès que je peux. Parce qu'après, à partir de 36, on bascule dans tout à fait autre chose. Pour un deuxième voyage de Paul, cette fois-ci.